Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie, au temps des pluies de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs, il vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus pour étudier un sujet qui est très mal compris parmi les adventistes du septième jour, très mal compris que ce soit dans les cercles de l'Église ou des divers corps indépendants. La pluie de l'arrière-saison est une pomme de mécompréhension. Je ne dirais pas discorde parce que il n'y a même pas de discorde à ce sujet parce que personne n'a de vraie compréhension claire à ce sujet. Et la raison de cela, comme nous allons le voir aujourd'hui, c'est parce que beaucoup sont dans le flou à ce sujet. J'aimerais, par la grâce de Dieu, dissiper ce brouillard et nous introduire progressivement, mais certainement, dans la certitude de la clarté des déclarations de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. J'aimerais que l'on parle de la pluie de l'arrière-saison. J'aimerais qu'on en parle, non pas pour débattre, mais pour comprendre ce que le Seigneur déclare, ce que le Seigneur a déclaré, ce que le Seigneur a révélé, afin que nous soyons non pas dans les ténèbres, mais que nous soyons dans la lumière des révélations de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Parce que si Jésus a donné un témoignage pour ces derniers jours, comme nous croyons en effet qu'il l'a fait en tant qu'adventiste, eh bien, ce n'est pas pour rien. Et donc, frères et sœurs, dans notre désir de comprendre, afin de recevoir la pluie de l'arrière-saison, l'un de nos premiers et de nos plus grands besoins, c'est d'assimiler le principe suivant que je vais vous donner, qui est fondamental dans notre lecture et notre compréhension de l'esprit de prophétie. J'aimerais pour cela attirer votre attention vers cette déclaration qui se trouve dans Message choisi, volume 1, à la page 65. Message choisi, volume 1, page 65, paragraphe 1. La raison pour laquelle j'aimerais introduire cette méditation, c'est parce que, comme nous avons vu dans Zacharie chapitre 10, nous sommes appelés à demander à l'Éternel la pluie au temps des pluies, je le relis. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie au temps des pluies de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs, il vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ. Donc au temps des pluies de l'arrière-saison, nous sommes appelés à demander au Seigneur la pluie. Et nous avons l'assurance qu'il donnera une pluie abondante. Et vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme, c'est que parmi de nombreux adventistes du septième jour, il existe une conviction selon laquelle il faut encore que nous demandions la pluie parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Et nous voulons voir ce que le Seigneur dit à ce sujet, pour savoir où nous nous situons, afin que nous puissions demander intelligemment à Dieu la pluie, à savoir celle qu'il n'a pas encore donnée, ou celle qu'il a déjà donnée, pour que nous la recevions aussi comme nos pères. Je ne vais pas plus dans les détails, mais je préfère laisser la parole de Dieu, le témoignage de Jésus, parler pour elle-même. Je le lis maintenant, cette citation de Message choisi, volume 1, page 65. En ce qui concerne les témoignages, donc le mot témoignage fait allusion à tous les écrits inspirés de l'esprit de prophétie, toutes ces lettres adressées à certaines personnes ou à certaines institutions, ce sont les témoignages. En ce qui concerne les témoignages, rien ne doit être ignoré, rien ne doit être rejeté. Toutefois, il convient de tenir compte des temps et des lieux. Donc, qu'est-ce que la messagère du Seigneur nous dit? Par rapport au témoignage, notre approche des témoignages, nous ne rejetons rien, nous n'ignorons rien. Nous les prenons comme inspirés de Dieu. Toutefois, nous dit-elle, sous l'esprit d'inspiration, toutefois, il convient de tenir compte des temps et des lieux. De quel temps, de quel lieu? Des temps et des lieux où furent écrits les écrits, où furent composés ces lettres, ces chapitres. Il convient de tenir compte des temps et des lieux. Parce que, comme je vais le lire juste après, pour ne pas appliquer au futur quelque chose qui a trouvé son application dans le passé, ou d'appliquer au futur quelque chose qui trouve son application dans le présent. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés, exhortés à tenir compte tout le temps des temps et des lieux. Et cela ne veut pas dire que nous ignorons ou que nous rejetons quoi que ce soit. Mais nous sommes appelés, tel que je viens de le lire, tel que c'est écrit noir sur blanc, à prendre en compte les temps et les lieux. Et je poursuis en lisant la déclaration de Message choisi, volume 2, à la page 117 et au paragraphe 2. Vis-à-vis de ce même problème, de ce même principe et de ce même problème de personnes qui appliquent la prophétie dans le et qui placent son accomplissement dans le futur alors qu'elle a déjà trouvé son accomplissement dans le passé ou alors qu'elle est déjà en train de trouver son accomplissement dans le présent. Je lis. Il s'est trouvé tantôt l'un et tantôt l'autre qui, en étudiant la Bible, ont cru découvrir de grandes lumières, de nouvelles théories, mais ils étaient dans l'erreur. Toute l'écriture est vraie, mais on peut parvenir à de fausses conclusions par de fausses applications. Nous sommes engagés dans un terrible conflit qui s'aggravera à mesure que nous approcherons de la fin. Notre adversaire ne sommeille pas. Sans cesse, il s'efforce d'influencer les hommes qui n'ont pas eu une expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu au cours des 50 dernières années. Certains renverront à l'avenir des vérités applicables à leur temps. Des événements annoncés par la prophétie et accomplis depuis longtemps sont placés dans l'avenir. Ces théories ont pour effet de miner la foi de quelques-uns. Vous avez remarqué ici quelque chose? L'ennemi s'efforce d'influencer les hommes qui n'ont pas eu une expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu au cours des 50 dernières années. Au cours des 50 dernières années. Et cette déclaration a été faite précisément à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, pardon, je crois que c'était en 1996 que cette déclaration a été écrite. Elle parlait à cette époque-là des 50 dernières années durant lesquelles le peuple de Dieu avait, ceux qui avaient été guidés par le Seigneur, les pionniers du message adventiste du septième jour. Pendant ces 50 dernières années, ils avaient fait une expérience avec Dieu et dans les enseignements que Dieu avait donnés et élaborés parmi son peuple. Et nous lisons que notre adversaire est sans cesse en train de s'efforcer d'influencer les hommes qui n'ont pas eu une expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu au cours des 50 dernières années. Et donc ces 50 dernières années, vous les situez entre 1848, le début du troisième ange, lorsque le sabbat a pour la première fois été annoncé, prêché, enseigné, avec bien entendu la vérité du sanctuaire qui va main dans la main avec le sabbat. Et cela vous mène à la fin, grossièrement, des années 1800, vers les années 1900. Donc, de 1850 à 1900, ils avaient ici une période précise vers laquelle l'esprit de prophétie attire tout particulièrement notre attention, pendant laquelle le peuple de Dieu a été enseigné et guidé d'une manière toute particulière. Et toutes les personnes qui n'ont pas eu une expérience personnelle des enseignements du peuple de Dieu au cours de ces 50 dernières années-là, eh bien, ils sont enclins, ils font l'objet des tentations et des séductions et de l'influence de l'ennemi des âmes, du diable, en ce que, parce qu'ils n'ont pas une expérience personnelle, ils sont faciles à tromper. Et donc, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention vers le fait que ni vous, ni moi, ni quelconque autre personne que vous ayez pu connaître dans votre vie n'a fait une expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu au cours de ces 50 dernières années-là dont elle parle. Ni vous, ni moi, ni aucun des frères ou sœurs que vous connaissez ou que vous ayez jamais connu n'a fait cette expérience personnelle-là. Et donc, nous sommes appelés, pour cette raison même-là, à faire très très attention à ce qui est écrit dans les écrits inspirés de l'esprit de prophétie, parce que ce sont eux qui nous rapportent, conjointement avec les enseignements des pionniers de l'Église adventiste du septième jour, ce sont eux qui nous rapportent ces vérités-là dans lesquelles nous n'avons pas fait une expérience personnelle. Une expérience personnelle, ce qu'elle veut dire, c'est une expérience vivante dans laquelle nous aurions été nous-mêmes une partie prenante du mouvement pendant que ces vérités étaient découvertes et enseignées en même temps parmi le peuple de Dieu, sous la direction du Seigneur lui-même à travers le témoignage de Jésus, à travers la messagère vivante en ce temps-là. Donc, vous et moi n'avons pas fait cette expérience personnelle, et donc vous et moi sommes et serons influençables par le diable et en proie à faire une mauvaise application des Écritures vis-à-vis de certaines choses qui auraient été appliquées dans le passé, qui devraient et qui trouvent leur application et leur accomplissement dans le passé. Et nous serons tentés et influencés à placer leur accomplissement dans le futur. Je le lis, c'est ce que nous avons vu juste après. Certains renverront à l'avenir des vérités applicables à leur temps. Donc il y a une vérité qui s'applique à notre temps, mais il se peut que nous allons renvoyer à l'avenir cette vérité, renvoyer à l'avenir cette promesse, renvoyer à l'avenir cette déclaration. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas fait une expérience personnelle du message des trois anges. Nous n'avons pas été là, nous n'avons pas vécu avec eux, nous n'avons pas marché avec le Seigneur alors qu'il guidait son peuple pas à pas dans toute la plateforme de la vérité éternelle sur laquelle nous sommes appelés maintenant à poser fermement nos pieds, comme sur le rocher inébranlable de la vérité. Nous n'avons pas fait cette expérience-là. Et donc, nous sommes en proie à faire cette erreur-là qui nous est annoncée ici. Je le relis, certains renverront à l'avenir des vérités applicables à leur temps. Maintenant, deuxième point, des événements annoncés par la prophétie et accomplis depuis longtemps sont placés dans l'avenir. Ces théories ont pour effet de miner la foi de quelques-uns. Et le plus important ici, c'est que nous réalisions que même cette déclaration doit être prise, nous devons prendre en compte les temps et les lieux. À savoir, elle a été écrite à la fin des années 1800. Et à combien plus forte raison aujourd'hui est grand notre danger de faire partie de ces personnes-là qui, n'ayant pas eu une expérience personnelle dans l'expérience du peuple de Dieu pendant ces 50 dernières années, à combien plus forte raison sommes-nous en danger de tomber dans ces travers-là, parce que nous n'avons pas fait cette expérience personnelle-là. Et à combien plus forte raison sommes-nous en danger de miner la foi de quelques-uns en enseignant et en plaçant dans l'avenir des événements annoncés par la prophétie qui ont trouvé leur accomplissement depuis longtemps. Qu'est-ce que ça va faire pour nous si nous croyons que certaines choses ont encore besoin de trouver leur accomplissement dans l'avenir, alors qu'en réalité, elles ont été accomplies depuis longtemps? Qu'est-ce que cela va faire? Cela va miner notre foi. Miner, ça veut dire que ça va la réduire, l'amoindrir, la détruire. Voilà ce que ça veut dire, miner. Et non pas simplement la nôtre, mais celle de tous ceux qui nous entourent, sur qui nous aurons une influence. Et donc, maintenant que je vous ai présenté, que je nous ai présenté ce principe vis-à-vis des temps et des lieux, et du danger dans lequel nous sommes et dans lequel chacun, tout adventiste aujourd'hui du septième jour, se trouve aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous attarder et contempler le principe de la pluie de l'arrière-saison. Nous voulons considérer, pas simplement l'accomplissement, mais juste pendant un instant, le principe. Parce que nous voulons comprendre la pluie de l'arrière-saison. Et pour comprendre la pluie de l'arrière-saison, nous avons besoin de poser certaines bases. Et pour cela, j'attire votre attention vers les paroles de Deutéronome, chapitre 11, versets 13 et 14. Deutéronome, chapitre 11, verset 13. « Il arrivera donc que si vous obéissez à mes commandements, que je vous donne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de la dernière saison, et tu recueilleras ton froment, ton moût et ton huile. » Quelle est l'utilité ici? Quel est l'objectif? Quel est le but pour lequel Dieu promet de donner? Quelle est l'importance que Dieu donne la pluie de la première et de la dernière saison en son temps? C'est marqué à la deuxième partie du verset 14. Et tu recueilleras ton froment, ton moût et ton huile. Comme une conséquence directe d'avoir reçu la pluie de la première et de l'arrière saison. Les pluies de la première et de la dernière saison étaient indispensables pour une bonne récolte. Et nous regardons aussi dans Jacques chapitre... Ou plutôt, allons dans Zacharie chapitre 10, parce que nous y voyons également le même principe. Zacharie, notre lecture biblique, chapitre 10. Demandez, Zacharie chapitre 10, verset 1, demandez à l'Éternel la pluie. Au temps des pluies de l'arrière-saison, l'Éternel produira des éclairs, il vous donnera une pluie abondante, et à chacun de l'herbe dans son champ. Donc, il va de soi que le message ici est métaphorique et symbolique, est une illustration pour parler d'autre chose. Et nous voyons que c'est le cas en nous tournant vers les paroles de Jacques, chapitre 5 et verset 7. Jacques 5, verset 7. « Frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de la dernière saison. » Et verset 8. « Vous aussi attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur et proche. Vous voyez ici, le parallèle est directement fait entre ce concept d'attendre avec patience le fruit de la terre jusqu'à ce que nous recevions la pluie de la première et de la dernière saison. Et de la même manière, nous sommes appelés à attendre patiemment, à affermir nos cœurs en vue de l'avènement du Seigneur. C'est le principe et le concept de la pluie de la première, mais surtout de l'arrière-saison. Et ici, pour laisser à l'esprit de prophétie l'opportunité, l'occasion de nous expliquer clairement, sans aller dans divers recoins de compréhension, nous nous tournons vers ce livre qui s'appelle « Instructions pour un service chrétien » à la page 305, paragraphe 1, jusqu'à la page 306, paragraphe 2. La promesse de l'Esprit est pour nous, aujourd'hui, aussi bien que pour les premiers disciples. Parce que Jésus avait promis la promesse, avait promis la venue du Consolateur, de cet autre Consolateur. Vous vous en souviendrez dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Il avait promis que lorsqu'il serait parti, il prierait le Père qui leur enverrait aux disciples, plus tard apôtres, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'autre Consolateur. Et ici, nous lisons que la promesse de l'Esprit qui leur était faite est pour nous aujourd'hui aussi bien que pour les premiers disciples. Dieu revêtira aujourd'hui de la puissance d'en haut des hommes et des femmes comme il le fit au jour de la Pentecôte pour ceux qui entendirent la parole du salut. À cet instant même, son esprit et sa grâce sont... Je le relis. À cet instant même, disait-elle, c'était en... Pareil, ça devait être dans les années 80, je crois. À cet instant même, son esprit et sa grâce sont à la disposition de tous ceux qui en sentent le besoin et qui le prennent au mot. Et qui prennent le Seigneur au mot. Qui sont prêts à croire en sa parole. À cet instant même, disait-elle, à cette époque-là, c'était à la fin des années 1800. À cet instant même, disait-elle, son esprit et sa grâce sont à la disposition de tous ceux qui en sentent le besoin et qui le prennent au mot. Donc l'esprit de prophétie est en train de nous dire que la promesse avait été faite aux disciples, mais la promesse de l'Esprit était aussi pour nous, disait-elle, à cette époque-là. Rappelez-vous, les temps et les lieux. Vous pouvez prendre aussi cette promesse et l'appliquer au XXIe siècle, parce que la promesse de l'Esprit est à travers tous les âges, mais c'est important de prendre en compte les temps et les lieux et de se rappeler qu'elle parle ici, à cet instant même, alors qu'elle écrit. C'est de cela dont il est question. J'attire votre attention vers ce point-là parce que c'est très important pour notre juste compréhension des citations qui vont venir après. Je continue. La promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée à une époque ou à une race. Donc, la promesse du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'était pas simplement promis aux apôtres à l'époque de l'Église primitive, ni d'ailleurs aux Juifs. Elle n'était pas limitée comme cela. Christ a déclaré que la divine influence de son esprit serait avec ses disciples jusqu'à la fin. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au temps actuel, le Consolateur a été envoyé à tous ceux qui se sont consacrés entièrement au Seigneur et à son service. paragraphe suivant, Dieu désire ranimer son peuple, ou littéralement rafraîchir son peuple par le don du Saint-Esprit en le rebaptisant dans son amour. L'Église n'a pas besoin d'une carence du Saint-Esprit. Après l'ascension de Christ, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui attendaient et priaient dans la foi avec une plénitude et une puissance qui touchèrent tous les cœurs. Donc nous parlons ici de la Pentecôte. Et maintenant, elle suit, elle parle d'autre chose, elle dit « Dans l'avenir, la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. » Dans l'avenir, dit-elle, en 1905. Dans l'avenir, la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Une divine influence émanant de ceux qui sont sanctifiés par la vérité doit s'exercer sur le monde. La terre doit être enveloppée d'une atmosphère de grâce. Le Saint-Esprit doit agir sur les cœurs, prenant de ce qui est à Dieu pour l'annoncer aux hommes. Et donc ici, elle reprend précisément ces paroles de Jésus, je crois, dans Jean chapitre 16, où il nous est dit que le Seigneur ferait cela en nous rappelant les choses que Jésus a dites. Et c'est précisément cette activité-là que nous apprenons se reproduira, entre guillemets, dans l'avenir. Ce qu'elle écrivait en 1905. Écoutez bien, frères et sœurs. Dans l'avenir, la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Nous parlons ici du Saint-Esprit et elle utilise ce langage. La terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Une divine influence émanant de ceux qui sont sanctifiés par la vérité doit s'exercer sur le monde. La terre doit être enveloppée d'une atmosphère de grâce. Comment ? À travers cet éclairage de la terre par la gloire de Dieu, à travers cette atmosphère de grâce dont la terre sera enveloppée et doit être enveloppée, à travers cette divine influence émanant de ceux qui sont sanctifiés par la vérité, qui s'exercera alors sur le monde. Nous avons ici des tracés clairs, prophétiques, de ce à quoi nous devons nous attendre par rapport à cette manifestation de l'Esprit qui avait été promis pour les disciples et dont la promesse est aussi valable pour nous aujourd'hui. Je continue. Mais ensuite, la vérité commence à devenir plus étroite. Plus nous avançons dans notre lecture des déclarations de l'Esprit de prophétie qui est le témoignage de Jésus, plus les descriptions rendent plus étroite et plus précise la vérité et l'application de la promesse, de la pluie, de l'arrière-saison. Je lis. Il est vrai qu'au temps de la fin, lorsque s'achèvera l'œuvre de Dieu sur la terre, les efforts fervents déployés sous la direction du Saint-Esprit par les croyants consacrés seront accompagnés de signes spéciaux de la faveur divine. Par l'image de la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tombe dans les pays orientaux à l'époque des semailles et de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une effusion extraordinaire de la grâce spirituelle sur l'Église de Dieu. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison, dont les résultats furent glorieux. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit demeurera dans la véritable Église. Donc, ici, vous avez une distinction très très précise que nous donne l'Esprit de prophétie, à savoir l'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, donc l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, c'était quoi ? La pluie de la première saison. Et les résultats de cette pluie furent glorieux. Nous lisons à ce sujet dans Actes, les premiers chapitres, je crois que plusieurs milliers furent convertis en un seul jour. C'était les résultats glorieux de cette pluie qui amenait une croissance soudaine des choses qui avaient été au préalable semées. La parole de Dieu avait été semée, mais quand le Saint-Esprit descendit à la Pentecôte, après que les apôtres se soient réunis et confessé leurs fautes les uns aux autres et cherché le Seigneur de tout leur cœur, eh bien, il y eut cette croissance subite en conséquence directe de cette pluie de la première saison. Nous sommes toujours dans cette illustration par laquelle nous avons lu juste avant. Je le relis par rapport voilà. Par l'image de la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tombe dans les pays orientaux à l'époque des semailles et de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une effusion extraordinaire de la grâce spirituelle sur l'Église de Dieu, à la fois à la Pentecôte et au temps de la fin lorsque s'achèvera l'œuvre de Dieu, à la première saison et à la dernière ou l'arrière-saison. La première saison, c'est pour donner une stimulation à la plante, que ce soit du blé ou du maïs, ou de l'orge ou de l'avoine, pour donner un élan à la plante, pour lui donner la force d'envoyer ses racines vers le bas et de pousser vers le haut, bien entendu. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est après que le fruit est grandi et commencé à grandir dans la plante, c'est pour mener le fruit à sa maturité. Et ces choses-là sont une image de ces choses, de cette prédiction d'une effusion extraordinaire de la grâce spirituelle sur l'Église de Dieu, à la fois à la Pentecôte et à la fin des temps, au temps de la fin. Je continue, notre citation, on est encore dans les principes. Nous sommes dans les principes généraux pour comprendre le concept de la pluie, à la fois de la première, mais surtout de l'arrière-saison, et pour ensuite pouvoir appliquer d'une manière intelligente ces principes généraux qui nous sont donnés de manière très claire et merveilleuse par le Saint-Esprit à travers l'esprit de prophétie. Je lis. L'effusion de l'esprit au jour des apôtres était la pluie de la première saison, et les résultats en furent glorieux. Mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Quelle est la promesse faite à ceux qui vivront dans les derniers jours, nous demande-t-elle. Retournez au lieu fort, elle cite, captif, qui avait espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai deux fois autant. Demandez à l'Éternel la pluie au temps des pluies de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs, il vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ. Donc nous avons la promesse que la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante que ne l'avait été celle de la première saison, au jour de la Pentecôte. Et maintenant, frères et sœurs, j'aimerais... la question qui se pose aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question en considérant toutes ces choses que nous avons lues, toutes ces déclarations. La question c'est, attendons-nous encore la pluie de l'arrière-saison? Est-elle future ou est-elle passée? Nous voulons bien nous poser la question parce que nous ne voulons pas faire partie de ces personnes-là qui renvoient à l'avenir des choses qui ont déjà trouvé leur qui trouvent en ce moment leur accomplissement dans leur temps présent, ou encore une fois, qui renvoient à l'avenir des choses qui ont trouvé leur accomplissement longtemps dans le passé, comme nous l'avons lu dans la citation de Message choisi, volume 2, page 117. Donc, est-ce que nous attendons encore la pluie de l'arrière-saison? Beaucoup aujourd'hui attendent la pluie de l'arrière-saison. Ils se rassemblent et ils prient avec la ferveur qu'ils croient être requise pour solliciter Dieu qui à leur entendement, n'a pas encore fait venir l'accomplissement de cette promesse. Est-ce bien là ce que le Seigneur désire et la chose qui est en harmonie avec ce qu'il a révélé? J'aimerais vous partager des choses très importantes qui, depuis que je les comprends et que je les connais, ont ouvert mon intelligence à tant d'autres choses dans la parole de Dieu et ont défait mes chaînes d'ignorance pour me faire entrer dans les plaisirs et la lumière de la parole certaine, la parole prophétique certaine qui nous est donnée comme une encre pour notre âme et par laquelle le Seigneur nous console d'une manière qu'il ne peut le faire d'aucune autre manière. C'est ce que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui, frères et sœurs. C'est le fardeau de mon cœur que nous puissions chacun, tout un chacun de nous, être délivrés des chaînes de l'obscurcissement de nos esprits par les artifices de l'ennemi. C'est ma prière. J'attire votre attention ici vers la déclaration du livre « Événements des derniers jours » à la page 151, paragraphe 2 et 3. Le Seigneur, dans sa grande compassion, sa grande miséricorde, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères Wagner et Jones. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur crucifié, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la rançon. Il invitait les gens à recevoir la justice de Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur, dans sa grâce, a donné? Dieu a donné un précieux message par qui? Par les frères Wagner et Jones. E.J. Wagner et A.T. Jones. Et que faisait ce message? Ce message présentait la justification par la foi dans la rançon, qui est Christ. Ce message invitait les gens à recevoir la justice de Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Dieu a envoyé dans sa grande miséricorde un précieux message. Je continue. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. C'était le cœur du message, de ce message qui a été délivré, donné, communiqué, qui a commencé à la réunion de Minneapolis en 1888. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains afin qu'il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa propre justice à l'être humain désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde, c'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Est-ce que nous comprenons? Cette déclaration a été faite en 1895. Quel était ce message que Dieu, dans sa miséricorde, a donné à son peuple à travers, par les frères Wagner et Jones? Ce message, c'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Quelle est cette voix forte? Est-ce que vous comprenez ce langage? Est-ce que ce langage vous rappelle quelque chose? Allez-y avec moi. Apocalypse, chapitre 18. Nous sommes en train, ici, de recevoir de Dieu, du Seigneur, une compréhension juste, pure et simple de la pluie de l'arrière-saison, afin que nous puissions recevoir cette pluie. Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 3. Après cela, après le troisième ange, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir ou une grande puissance. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Qu'est-ce que qui nous est présenté ici, dans ce passage? Un autre ange descendant du ciel ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire, et il crie avec force et à grande voix. Je reprends les paroles de l'esprit de prophétie. Ce message qui a été donné en 1888 à Minneapolis par les frères Wagner et Jones, ce message, c'est le message du troisième ange, pas simplement ça, qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Vous avez ici un élément clé où nous apprenons que ce message qui a été donné de la justification par la foi, de la justice de Christ, c'est le message du troisième ange qui est proclamé d'une voix forte, à savoir cette voix forte, ce grand cri d'Apocalypse, chapitre 18, versets 1 et 2, et qui est accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit, à savoir la pluie de l'arrière-saison. Donc la pluie de l'arrière-saison va avec un message. Et ce message, c'est l'amplification du troisième ange, que l'on appelle aussi le grand cri du message de l'ange d'Apocalypse 18. Je continue ici dans le commentaire biblique des écrits d'Ellen G. White à la page 1984, ou en anglais dans SDA Bible Commentary, volume 7, page 984, paragraphe 6. Le temps, elle disait dans la Review and Herald du 22 novembre 1892. Notez bien. Le temps d'épreuve est imminent, ou littéralement est juste sur nous, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. Ceci est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. Parlant encore précisément de ce message de 1888, elle dit « Le grand cri du troisième ange a déjà commencé. » L'ange d'Apocalypse 18, ce grand cri-là, a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. C'est ce que nous lisions d'ailleurs juste avant, dans Événement des derniers jours, à la page 151, paragraphe 2. Ce message donné par Wagoner et Jones avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur crucifié, le sacrifice pour les péchés du monde entier. C'est exactement la même chose. Et je reviens. Ceci est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. Donc dites-moi, frères et sœurs, cet ange d'Apocalypse chapitre 18, ce grand cri du troisième ange, l'attendons-nous dans l'avenir? Ou a-t-il trouvé son accomplissement dans le passé? Je vous donne la réponse ici. Ce message de la justice de Christ de Minneapolis de 1888, ceci est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. Est-ce que le message a déjà commencé? C'est écrit ici, en 1892, 4 ans après la réunion de Minneapolis, la messagère du Seigneur disait, le témoignage de Jésus déclarait que le grand cri du troisième ange a déjà commencé. La pluie de l'arrière-saison a déjà commencé à tomber. Nous sommes en train d'obtenir une compréhension inspirée du sujet, de la réalité, de la pluie, de l'arrière-saison. Rappelez-vous ce que nous avons lu ? Demandez à l'Éternel la pluie, au temps des pluies de l'arrière-saison. Est-ce que nous sommes au temps de la pluie de l'arrière-saison ? En effet, plus encore, elle a commencé il y a plus d'un siècle. Nous sommes en 2021. Selon ces écrits inspirés du Seigneur, indéniablement, la pluie de l'arrière-saison a débuté en 1888. Où sommes-nous aujourd'hui, frères et sœurs? Qu'attendez-vous? Pourquoi priez-vous? Ce que nous devrions faire, c'est recevoir les choses que le Seigneur a déjà révélées. C'est cela notre grand besoin. Nous n'avons pas de plus grand besoin aujourd'hui que de nous conformer, de recevoir les révélations du Seigneur vis-à-vis de notre condition présente et de notre position dans l'accomplissement de la prophétie. Parce que si nous n'avons pas cela, alors nous sommes dans les ténèbres. Nous ne savons ni où nous allons, ni d'où nous venons. Il nous faut un compas, il nous faut une boussole. Et cela, seul le Seigneur peut nous les donner. Et en effet, il nous les a déjà communiqués si nous écoutons attentivement les révélations du témoignage du Seigneur Jésus. Donc nous voyons que le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ. Et maintenant, j'attire votre attention vers cette question, à savoir... Comment ce message a-t-il été reçu? Comment est-ce que le message que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a donné à son peuple, comment ce message a été reçu par son peuple à qui il le communiquait. J'aimerais lire dans la citation de Testimonies to Ministers à la page 401 et au paragraphe 4. Ce livre n'existe pas en français, mais vous aurez la citation disponible comme d'habitude. Le grand objet de la venue ou de l'avènement du Saint-Esprit est clairement précisé par Christ. Quand il sera venu, dit-il, il, l'Esprit, convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc l'Esprit de prophétie est en train de progressivement préparer notre esprit à comprendre ce que nous devrions attendre lorsque nous prions et que nous espérons et que nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Elle dit, le grand objet de la venue du Saint-Esprit est clairement précisé par Christ. Donc le Seigneur est en train ici de nous dire la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été promis et pour laquelle le Saint-Esprit est pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit, pour laquelle le Saint-Esprit est requis dans notre expérience, c'est ce que Jésus a dit quand il a dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Donc, dans la venue du Saint-Esprit, frères et sœurs, dans la pluie du Saint-Esprit, il s'agit non pas, comme nous avons été si longuement conditionnés à le croire, d'une effusion d'excitation, de merveilleux sentiments intérieurs, extérieurs, d'une euphorie spirituelle. Il s'agit non pas de cela, mais plutôt d'une influence divine par laquelle le peuple de Dieu est convaincu de péché, de justice et de jugement. L'Esprit convainc, l'Esprit de Dieu persuade, l'Esprit mène à la confession, l'Esprit mène à la repentance. C'est comme cela que nous savons d'ailleurs que les apôtres avaient bel et bien reçu l'Esprit bien avant la Pentecôte, parce qu'ils étaient menés à la repentance, menés à une confession mutuelle des péchés qu'ils avaient commis les uns envers les autres. C'est comme cela que l'Esprit se manifeste, frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'une extase spirituelle. Il s'agit d'une réforme et d'un renouveau individuel. Individuel et commun à tous ceux qui sont prêts à se soumettre à cette activité-là. Voilà le grand objet de la venue du Saint-Esprit. À la fois la venue première, à la Pentecôte, dans la première pluie, de la première saison, comme au temps de la fin, lorsque l'œuvre sera achevée. Je continue. Cette lumière vis-à-vis du Saint-Esprit, vis-à-vis de la réelle activité de l'Esprit, cette lumière a été maintenue devant notre peuple pendant de nombreuses années, dit-elle, en 1897, l'année où cette déclaration a été écrite. Cette lumière a été maintenue devant notre peuple pendant de nombreuses années. La puissance du Saint-Esprit a été largement manifestée à Battle Creek, le grand cœur de l'œuvre, afin d'être communiquée à ceux qui se trouvent dans les chemins et le long des haies, afin que les masses d'êtres humains sous l'emprise de Satan, du péché et de la mort puissent être réformées et restaurées par la puissance de l'Esprit. Donc au cœur même de l'œuvre de l'Église adventiste du septième jour, à cette époque-là, à la fin des années 1800, allant vers le XXe siècle, elle pouvait dire que la puissance du Saint-Esprit a été largement manifestée à Battle Creek. Parce que il y avait eu non seulement cette réunion à Minneapolis avec les frères Wagoner et Jones qui avaient présenté le message de la justification par la foi, mais dans les années qui ont suivi cela, les frères Wagoner et Jones ont continué de présenter ce message que le Seigneur leur avait confié pour le peuple de Dieu. Et donc, inévitablement, à Battle Creek aussi, il y a eu pendant de nombreuses années, vous avez 9 ans entre le début du message du grand cri du troisième ange et la date où cette déclaration a été faite. Et donc, il y a de nombreuses années qui se sont écoulées pendant lesquelles ce message de la justification par la foi, de la justice de Christ, qui met en avant le fait que nous n'avons aucune justice, ce message avait été longuement maintenu devant notre peuple pendant de nombreuses années. Dans la puissance du Saint-Esprit a été largement manifestée à Battle Creek, le grand cœur de l'œuvre, afin d'être communiqué à ceux qui se trouvent dans les chemins et le long des haies, afin que les masses d'êtres humains sous l'emprise de Satan, du péché et de la mort puissent être réformées et restaurées par la puissance de l'Esprit. Donc Dieu était en train de communiquer à son peuple cette vérité, afin que eux-mêmes se réforment, pour qu'ils puissent ensuite communiquer à tous ceux qui voudraient bien le recevoir ce message qui est le message de la pluie de l'arrière-saison pour mener à pleine maturité le fruit qu'ensuite Dieu, Jésus, viendra recueillir lors de son second avènement. Donc Dieu était venu à Battle Creek, à Minneapolis, et ensuite à travers tous les différents endroits auxquels les serviteurs Jones et Wagoner se sont rendus pour prêcher la parole, pour annoncer ce message dont ils savaient pertinemment qu'ils étaient les détenteurs et les instruments. Mais, malgré que cela s'est produit, malgré que le Seigneur s'est révélé comme cela à son peuple, au sein même de l'œuvre, afin vraiment de faire bouger, de propulser, dépendre ce message et son application pratique. Mais, je lis, « Mais lorsque la lumière est parvenue à ceux qui se trouvaient au cœur de l'œuvre, ils n'ont pas su comment la traiter. » 1897. Lorsque cette lumière du 1888 du grand cri du troisième ange, leur est parvenu à ces dirigeants-là, ceux qui se trouvaient au cœur de l'œuvre. Comment l'ont-ils reçu? Ils n'ont pas su comment la traiter. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous le voyons dans la citation suivante, dans Message choisi. Message choisi, volume 1, page 275, paragraphe 5, jusqu'à la page 276. Il y avait une pomme de discorde au sein de l'Église à l'époque, c'était surtout par rapport à la loi dont il est question dans Galates chapitre 3, verset 24. Certains comme George Butler et Uriah Smith et de nombreuses autres personnalités de l'Église pensait que cette loi dont il est question dans ce passage, c'était la loi cérémonielle. Mais Jones et Wagoner, ils enseignaient que cette loi dont il était question, c'était la loi morale des 10 commandements. Je le lis. Elle cite Galates chapitre 3, verset 24. La loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Dans ce passage, le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre, parle surtout de la loi morale. La loi nous révèle le péché et nous fait éprouver notre besoin de Christ et de nous réfugier auprès de lui pour obtenir le pardon et la paix en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, écoutez bien. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter cette vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères Wagner et Jones. En suscitant cette opposition, écoutez bien, en suscitant cette opposition-là, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi les a empêchés d'obtenir cette efficience qui aurait pu être la leur pour proclamer la vérité au monde, de la même manière que les apôtres l'avaient proclamé après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer la terre entière de sa gloire, et ce sont nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Donc, ils n'ont pas su comment la traiter, et donc, qu'ont-ils fait? Ils l'ont rejetée, ils y ont résisté. Il est écrit que on a résisté à la lumière qui doit illuminer la terre entière de sa gloire, et ce sont nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Ce fut écrit en 1896. Donc, c'était le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter cette vérité au sujet de la loi de Galates chapitre 3 verset 24 qui expliquait et qui explique en grande partie l'opposition qu'a rencontré à Minneapolis le message du Seigneur présenté par Wagner et Jones. Ils refusaient d'abandonner leurs idées préconçues et ils refusaient d'accepter cette vérité au sujet de la loi morale, à savoir que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Ce message-là mettait à bas l'esprit de légalisme en ce qu'il mettait en évidence le fait que toutes nos justices sont comme des vêtements souillés et élevait aux yeux du monde entier, et bien sûr de l'Église, la justice de Christ, qui est rendue manifeste, c'est vrai, par l'obéissance à tous les commandements de Dieu, mais qui est celle de Christ et qui n'est pas la nôtre. Et que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ en ce que la loi nous condamne et elle donne vie au péché. Et c'était tout ce message qui a suscité un tel esprit d'opposition. Et c'est cette opposition que Satan a utilisée pour priver dans une grande mesure notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. Donc voilà comment le message a été reçu. Quand la lumière du quatrième ange de l'Apocalypse 18 est arrivée, ils n'ont pas su comment la traiter, et donc ils l'ont rejetée. Ils y ont résisté. Mais ici, c'est la raison pour laquelle j'aimerais poser cette question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ou je devrais dire une certaine frange adventiste, maintient que parce que ce message a été résisté à ce moment-là, alors maintenant il a été mis en suspens. Et nous devons encore maintenant attendre son accomplissement. Et j'attire votre attention vers cette parole, cette déclaration de Message choisi, volume 2, à la page 113, paragraphe 3, jusqu'à la page 114, qui a été écrit en 1896. Encore une fois, vous voyez que toutes ces choses se réunissent et aboutissent pratiquement aux mêmes années, au même moment, parce que c'était à ce moment-là qu'il y avait un tel mouvement de réforme parmi le peuple de Dieu. Et donc la question c'est, parce que cette lumière a été rejetée par certains des dirigeants, et que nos frères ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière, elle disait ça en 1896, souvenez-vous, rappelez-vous qu'il faut considérer les temps et les lieux lorsque nous lisons les témoignages, parce que cela a été le cas, parce qu'ils ont résisté au message, parce qu'ils ne l'ont pas reçu d'une manière commune, est-ce que cela veut dire que le message a cessé? C'est ça la question fondamentale, frères et sœurs. Et écoutez la réponse du Seigneur à ce sujet. Message choisi, volume 2, page 113. En 1896, disait-elle, une nouvelle vie descend du ciel et s'empare de tout le peuple de Dieu. Cependant, des divisions se produiront dans l'Église. Deux parties se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble pour la moisson. L'œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps. Et tous ceux qui sont ouvriers avec Dieu lutteront énergiquement pour la foi qui a été une fois donnée aux saints. Ils ne se laisseront pas détourner du message présent qui déjà illumine la terre de sa gloire. Une nouvelle vie descend du ciel et s'empare de tout le peuple de Dieu, nous disait-elle, en 1896. Et est-ce que cette nouvelle vie va être mise en pause parce que certains l'ont rejetée? Lisez cela. Elle dit, l'esprit de prophétie nous dit, « Cependant, des divisions se produiront dans l'Église. Alors que cette nouvelle vie descend du ciel, quelle nouvelle vie? Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir et la terre fut éclairée de sa gloire. Une nouvelle vie descend du ciel. Et cette vie, que fait-elle? Elle s'empare de tout le peuple de Dieu. Mais certes, des divisions se produiront dans l'Église. Deux parties se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble pour la moisson. Et ensuite, il est écrit que l'œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps. Donc, la déclaration prophétique, ici le tracé prophétique, nous montre sans l'ombre d'un doute, frères et sœurs, que quand bien même il se peut que nous n'ayons pas vu de nos yeux, il faut que nous cherchions parce qu'il est déclaré que cette œuvre-là, du grand cri du troisième ange, de ce quatrième ange d'Apocalypse chapitre 18, se fera en profondeur. Ce message perdurera, continuera, se fera en profondeur avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps. Cette déclaration exclut toute possibilité qu'il y ait eu une pause, qu'il y ait eu une halte dans la pluie de l'arrière-saison. Et nous lisons que tous ceux qui sont ouvriers avec Dieu lutteront énergiquement pour la foi qui a été une fois donnée aux saints. Donc il y a deux parties qui se forment. Certains résistent et ne veulent pas du message, et d'autres deviennent du bon grain. D'autres reçoivent la nouvelle vie qui descend du ciel et qui s'empare d'eux. Et ceux-là lutteront énergiquement pour la foi qui a été une fois donnée aux saints. C'est une déclaration prophétique. Ils ne se laisseront pas détourner du message présent qui déjà illumine la terre de sa gloire. Ces personnes-là qui nous sont présentées ici par la prophétie, par la plume prophétique, inaltérable et inchangeable, de Dieu. Ces personnes-là nous dit-on, ne se laisseront pas détourner du message présent qui déjà illumine la terre de sa gloire. Donc, frères et sœurs, la pluie de l'arrière-saison a commencé en 1888. Et nous lisons que l'œuvre ne s'est pas arrêtée. Peut-être que vous n'avez jamais vu comment elle s'est poursuivie. Et c'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, nous poursuivrons cette étude pour discerner ce qui s'est passé et qui a justifié et qui a vérifié ces déclarations du Seigneur par lesquelles il nous dit qu'il y aura un peuple qui bénéficiera, qui profitera de ces dernières ondées dans une mesure extraordinaire. Cette effusion du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Puissions-nous recevoir, accepter le Saint-Esprit dans la vérité que nous avons aujourd'hui entendue du Seigneur et marcher avec cela. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.